Dimanche dernier, nous avons écouté Saint Marc qui nous relatait la première partie, en tout cas, de cet épisode où Jésus attire les foules. On voyait que Jésus répondait au désir des uns et des autres, réveillait le désir dans le cœur des gens, la Samaritaine, Zachée, tant d'hommes et de femmes que Jésus a rencontrés. Et là, on est dans Saint Jean, donc c'est une autre couleur. Saint Jean, c'est un autre goût, c'est autre chose. C'est un mystique, c'est l'heure de la passion, la croix, la gloire. Mais il semblerait que la liturgie fasse le parallèle avec ce qui aussi, dans Saint Marc, la première multiplication des pains. Et on parle de cette foule qui suivait Jésus, car elle avait vu des signes. Il accomplissait sur les malades des guérisons. C'est intéressant de dire les motifs pour lesquels on suit le Seigneur. Ce sont des motifs variés et qui ne sont pas toujours très purs. Et le Seigneur, dans notre vie, purifie les motifs que nous avons de le suivre. Et au lieu de penser que dès le départ, nous avons des motifs très purs et que c'est vraiment parce que c'est le Christ, le Fils de Dieu, que nous sommes ici dans cette chapelle, eh bien, on peut se questionner quels sont les motifs qui nous ont poussés à venir ici. Et quels sont les motifs qui nous font dire que nous nous affirmons comme disciples de Jésus. Donc on voit que Jésus, il purifie un peu ces motifs-là, il gravit la montagne, il est assis, intéressant, avec ses disciples. Assis, vous savez que c'est la position de celui qui écoute, mais aussi c'est la position du maître qui enseigne. Et tout de suite, la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs était proche, acheter du pain. Qu'est-ce que cela pour tant de monde, 5 pains et 2 poissons, et la multiplication des pains. C'est intéressant de dire que déjà, on est dans ce passage. Jésus est passé de l'autre côté de la mer de Galilée, c'est comme ça que commence le texte. Ça commence par une traversée, par un passage, aller sur l'autre rive. Et sur l'autre rive, il trouvait des besoins auxquels on ne peut pas forcément répondre, mais avec notre humanité telle qu'elle est, avec la grâce que le Seigneur nous donne, eh bien, nous pouvons, avec modestie, humilité, donner ce que nous avons, et le Seigneur lui comble, bien au-delà de nos espérances. Je trouve que ça parle beaucoup de la vie religieuse en ce moment où nous sommes tous très émus par le décès du père Hubert Marie, tout à fait inattendu, un homme de 68 ans. Mais ça nous dit à nous religieux et à tous, comme vous avez pu avoir des décès dans vos familles, etc. Ces moments-là sont des moments très particuliers. Nous avons encore le corps et vous pouvez vous recueillir si vous le souhaitez. Et puis demain auront lieu les funérailles. Et je trouve ça, c'est des moments particuliers où on prend conscience de la grâce de la vie religieuse. La vie baptismale, la vie religieuse, n'oublions pas, s'enracine dans la vie baptismale, la vie du baptême. Le baptême, c'est précisément cette Pâque, aller sur l'autre rive, être des passeurs. Mais la vie religieuse, c'est vraiment s'enracine dans la vie baptismale. On fait de la vie baptismale notre forme de vie. Alors en plus, le père Hubert Marie était prêtre, etc. Mais c'est intéressant, quand on est prêtre, on nous demande d'abord de faire nos engagements dans la communauté. Avant d'être prêtre. Parce qu'on peut être prêtre diocésain, aller au séminaire, bon voilà, on est aussi prêtre. Mais c'est pas pareil. Nous, on nous demande de nous engager dans une communauté. Et je trouve ça beau de voir la vie religieuse dans cette dimension-là. La vie religieuse comme un passage. La vie religieuse comme cette manière de répondre aux désirs du monde. Ce n'est pas pour nous que nous nous consacrons. Nous reprenons la parole de Jésus, c'est pour eux que je me consacre. Eh bien, chacun de nous, ici les frères et les religieux, religieuses de par le monde, évidemment, ont cette parole dans le cœur. C'est pour eux que je me consacre. Et à la fois, qu'est-ce que cela pour tant de monde? L'expérience d'une disproportion. Vous voyez l'expérience. Nous sommes la religion, de la disproportion. Nous sommes la religion du vertige. Il y a quelque chose de vertigineux dans notre vie. dans notre vie de baptisé, de disciple de Jésus, dans notre vie religieuse, il y a quelque chose de vertigineux. Il n'y a, pas une adéquation entre ce que nous sommes et les attentes que nous avons en face de nous. Et c'est presque précisément cette disproportion, ce vertige qui laisse la place au miracle. Et d'une certaine manière, chaque consécration, chaque consacré, homme et femme, est un miracle pour répondre aux attentes du monde et découvrir aussi dans ses attentes quelque chose qui le dépasse. Ce n'est pas simplement, je veux dire, une cohérence de vie qui va faire qu'on va répondre aux attentes du monde. Parce que nous, comme vous, nous sommes à des moments assez incohérents, évidemment. Nous avons nos hauts et nos bas, nous sommes faits de creux et de bosses. Ce n'est pas ça qui fait la vie religieuse. La vie religieuse, c'est ce poteau indicateur vers la vie éternelle. Et de ce point de vue-là, ce décès survenu de façon imprévue nous rappelle à tous, nous bouscule, nous secoue, nous émeut, mais nous aide. Bien sûr, nous souhaiterions que notre très cher frère se repose dans sa chambre le temps de reprendre des forces et de revenir ensuite dans le ministère, bien sûr. Voilà, la Providence en a décidé autrement, un homme de 68 ans, un homme relativement jeune, ça veut dire, oui. Ben, voilà, c'est tout ça beau de dire, c'est il nous rappelle à tous que la vie éternelle, c'est vraiment le lieu du passage. Ce passage vers la gloire. C'est ça notre vie. C'est ce passage vers la gloire. Et que la gloire de Dieu vient éclairer, rétro-éclairer, si on peut dire, vient rétro-éclairer toute notre vie. Et c'est à ces moments-là qu'on reprend conscience. Bien sûr qu'on le sait intellectuellement, bien sûr. Ça, vous et moi, nous n'apprenons rien de nouveau sur ce point-là, mais c'est toujours bien, dans des moments comme ça où on est secoué, de reprendre conscience de cet appel à contempler Dieu face à face. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Alors ce passage, je trouve ça très beau, cette manière de voir, justement, nous sommes aussi des passeurs, chacun là où nous sommes. Nous sommes des passeurs. Vous savez que le mot hébreu, dans le langage biblique, le mot hébreu veut dire passeur. On dit, bien sûr, on pense à la mer Rouge, ceux qui ont passé la mer Rouge à pied sec, mais ça formait le mot hébreu. Donc c'est intéressant de dire, on est tous des passeurs de vie, des passeurs de vie éternelle, bien sûr par le baptême, mais aussi par la manière dont nous accueillons la parole du Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande ? D'offrir nos 5 pains et nos 2 poissons. Voilà. D'offrir notre vie, simplement, en toute simplicité, en toute modestie, même si on voit que ce n'est pas forcément grand-chose, même peut-être si nous avons une image peut-être négative de nous-mêmes, eh bien, ce n'est pas ça dont il s'agit. Voilà. Il y en a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Jésus dit, faites-les asseoir, et ensuite il prit les pains et les poissons et les donna aux convives. Vous voyez, il n'y a pas eu de questionnement, il n'y a pas eu de la part de Jésus, alors qu'il va sur la montagne, évidemment, on pense vraiment à la montagne, à la révélation, les tables de la loi, évidemment, il y a des liens avec l'Ancien Testament. Il y a quelque chose de lui, sur la montagne, parle et donne une nourriture en abondance. Je trouve que c'est beau de dire, tiens, qu'est-ce qu'il nous demande à nous ? C'est de reprendre conscience que, premièrement, nous sommes face à un monde, plus qu'on ne le croit, attend une parole de notre part, nous, disciples de Jésus. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Nos contemporains sont en attente. À tâtons, ils ont quand même cette faim, quand on les met face à plus grand qu'eux. Évidemment, pour nous, ça nous parle, parce que c'est notre vie. Le chrétien porte en lui-même plus que lui-même, évidemment. C'est la définition même du disciple de Jésus, porter en lui-même plus grand que soi. Alors, ce temps que nous vivons, d'entre deux, ce temps à la fois d'espérance et à la fois de douleur pour le départ de notre frère. Voilà, ce temps-là, eh bien, je trouve ça un temps pour reprendre conscience de ce que nous vivons, de cette, ce qu'on dit d'un mot un peu compliqué, l'inhabitation de la Trinité en nous. La Trinité habite en nous, elle est là, par le baptême. Nous, comme religieux, nous organisons notre vie en fonction du baptême avec les vœux. Et comme poteau indicateur vers la vie éternelle, c'est notre but. On dit, voilà, notre cité est dans les cieux. Nous ne sommes pas faits pour ce monde. Nous sommes citoyens des cieux, comme dira le grand saint Paul. Eh bien, le Seigneur nous donne, à travers cette contemplation du récit de la multiplication des pains, cette première multiplication des pains, il y a plusieurs multiplications des pains dans l'Évangile, il nous donne l'importance de prendre compte chacun en particulier, rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Que rien ne se perde. Des gestes d'amour désintéressés, que rien ne se perde. Nous croyons que nos actes retentissent dans l'éternité. Nous le croyons. Nous croyons que notre cher Père Hubert Marie contemple aussi avec le Seigneur les actes d'amour désintéressés qu'il a posés dans sa vie. Nous le croyons. Et en même temps englobé par la miséricorde, parce que nous ne sommes faits de creux de bosse. Ce moment, s'il est un moment douloureux, est aussi un moment béni. Alors je trouve que c'est à travers ce passage, ce passé sur l'autre rive, il y a comme un écho providentiel que le Seigneur nous donne, à nous qui sommes ici dans cette chapelle, à nous consacrer, à tous ceux qui sont consacrés par le baptême aussi. Il nous rappelle que nous sommes les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.